Tu es un Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob devenu Israël. Tu es le Dieu des prophètes. Tu es le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es le Dieu des apôtres. Tu es le Dieu qui était et qui est aujourd'hui avec ton Église pour la préparer parce que tu reviens bientôt. Éternel Dieu de gloire, répands ta compassion sur nous. Répands ta compassion dans mon cœur. Je viens à toi dans l'unique et le seul nom de Jésus. Je ne peux rien faire hors de toi. Je me confie en toi. Je me cache en Jésus-Christ. Pour que ta parole, ô Éternel, notre Dieu, notre Père, puisse se faire entendre et sauver et libérer en ce jour. Puisses-tu daigner te faire connaître encore mieux à chacun de nous, comme le vrai Dieu, comme celui qui est le grand Je suis, Yod et Vavé, que ta sainteté et ton nom béni soit-il, soient loués, adorés et magnifiés ce matin. Que tu puisses, Père Céleste, et répandre la connaissance de Yeshua, Jésus le Sauveur, le Fils unique du Dieu vivant, révèle encore la face du Messie. Alors les uns les autres te verront. Comme l'a dit Jésus, qui m'a vu a vu le Père. Permet que tous puissent voir le Fils ce matin. Et qu'alors ils puissent voir le Père et rentrer dans son alliance renouvelée, son alliance éternelle. Alors Père Céleste, c'est ainsi que tu peux conduire les choses. Révèle-nous encore quelle est notre destinée, quelle est notre espérance, quel est le chemin que tu nous appelles à emprunter jusqu'à ce que tu reviennes et pour que nous soyons pour toujours avec toi. Ta bénédiction, ô Éternel notre Dieu, soit sur chacun de nous, les uns les autres. Nous plions le genou devant toi et nous disons, parle ce matin. Fais œuvre de vie, Père Céleste. Fais œuvre de repentance pour la vie ce matin. Et répands l'odeur de ta connaissance. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, en Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur Jésus, je rajoute, que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Et Jésus, c'est celui qui parlait au travers d'Ésaïe, serviteur de Dieu. Jésus, c'est celui qui veut parler au travers de chacun de nous, afin que ce monde croie qu'il est l'Éternel, afin que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? J'aimerais vous parler de trois choses ce matin. D'abord, la révélation que Dieu est l'Éternel, comme nous avons pu introduire. Il est le Dieu vivant, et il n'y en a point d'autre. Ensuite, la révélation de qui est Jésus? Qui est Jésus véritablement pour nous? Et alors, la révélation de qu'est-ce que notre vie? Quel est le sens de notre vie? Quelle est, on pourrait dire, notre destinée véritable? Alors, je commencerai par vous lire ces versets. Nombre 14, verset 21. « Je suis vivant, dit l'Éternel, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Nombre 14, 28. « Dis-leur, il disait à Moïse, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. » Pouvons-nous entendre cette voix de Dieu? Un Dieu qui finalement n'aurait pas besoin de l'homme. Un homme qui plus est, qui se tourne la plupart du temps vers le mal, qui murmure même, comme les enfants d'Israël le faisaient dans le désert, mais un Dieu qui dit à Moïse, comme du plus profond de son cœur, de ses entrailles, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. » Pourriez-vous entendre cette voix ce matin d'un Dieu qui nous dit « Je suis vivant », que ce ne soit pas moi qui parle, mais l'Éternel du haut des cieux qui dise à nous tous ce matin « Je suis vivant et ma gloire remplira toute la terre. » Et ces choses vont se passer, ces choses vont se vivre. Bientôt, le Seigneur apparaîtra dans sa gloire, tel un éclair, de l'Orient à l'Occident, tout le monde le verra. Et l'Éternel sera le seul nom, comme dit le prophète Zacharie. Il sera le seul nom, et sa gloire remplira toute la terre. Voyons-nous entendre cette voix de celui qui est un Dieu saint, un Dieu tout-puissant, mais de celui aussi qui est un Père, de celui qui veut nous sauver. « Je suis vivant, dit l'Éternel, et ma gloire remplira toute la terre. » Bien-aimés, Dieu est vivant. Et brièvement, j'aimerais non pas vous faire une démonstration de sagesse persuasive, comme le disait Paul. Mon discours n'avait rien des discours persuasifs de la sagesse. Mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi repose sur cette même puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. J'aimerais vous dire en trois points, dans ce premier point de la révélation que Dieu est vivant, que Dieu nous prouve qu'il est vivant dans sa création. Dieu nous prouve alors qu'il est vivant dans notre conscience à tous, qui que nous soyons. Et Dieu nous prouve qu'il est vivant et vrai au travers de l'histoire. Alors Dieu nous prouve qu'il est vivant dans sa création. Ésaïe 40, verset 26. « Levez vos yeux en haut et regardez !» Et là encore, c'est Dieu qui nous parle ce matin à tous. « Levez vos yeux en haut, regardez le ciel, regardez les étoiles, regardez cette atmosphère dans laquelle on vit. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leurs armées ? L'armée des cieux. Dieu est le seul créateur. Et aujourd'hui, en particulier en Occident, c'est quelque chose que l'on attaque. On veut rejeter le fait que Dieu est le créateur. On finit par nous faire croire que nous descendons du singe, alors que ce devrait être une folie. Nous devenons ceux qui sont fous en professant que Dieu a créé l'homme. Dieu est le seul créateur. Oh bien-aimé, j'aimerais peut-être vous montrer certaines images pour nous faire méditer un tant soit peu sur l'univers. Si nous devions faire le tour de la Terre, oh combien ce serait déjà long. Mais la Terre n'est qu'un point infime, une petite poussière de terre à Akonolinga dans l'univers. La Terre est toute petite dans le système solaire. Le système solaire est tout petit dans ce qu'est notre galaxie. Et notre galaxie n'est qu'un point dans ce qu'est l'univers. Et Dieu tient tout dans sa main. Et nous sommes là, et sans nous en rendre compte, nous respirons, n'est-ce pas ? Nous avons un cœur qui bat, mais d'où tiens-tu ces choses ? Te rends-tu pas compte que Dieu tient tout dans sa main ? Nous vivons dans une atmosphère parfaite. Certes, ici, nous avons un peu plus chaud, alors en Occident, nous avons un peu plus froid. Mais Dieu tient toutes choses dans sa main. Il gère toutes choses. Et parfois, vous savez, nous sommes tellement à regarder vers la terre, à regarder en nous et à ne pas lever les yeux comme nous venons de l'entendre, que nous pouvons ne pas nous rendre compte et mépriser ces choses. Comment une femme fait pour que l'enfant dans son ventre puisse grandir si parfaitement ? Comment les contractions viennent au moment où l'accouchement arrive ? D'où vient cette poussée finale ? Toutes les femmes qui ont accouché ici pourraient dire et devraient dire, mais sans cette chose surnaturelle, qu'on pourrait dire naturelle, mais qui n'est que surnaturelle, comment aurais-je pu donner la vie ? Alors un enfant naît, sans que nous demandions rien, voilà que le lait maternel vient, et voilà que nous pouvons allaiter cet enfant, lui donnant tout ce dont il a besoin. Comment nous grandissons ? Qui dit à ses os de pousser ? Qui dit à sa peau de s'étendre ? L'Éternel est Dieu et il tient tout dans sa main. Comment nous respirons ce matin ? Par sa grâce, parce qu'il est l'Éternel. Comment cela se fait que notre cœur bat ? Parce que Dieu est le Créateur. Il est le vivant et cela se voit dans la création. Et nous sommes ses créatures. Ésaïe 42, 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Je viens de vous parler de cette respiration. Nous pourrions parler des productions, n'est-ce pas ? Voyez votre terre si fertile ici. Nous plantons même un bâton pour faire des bornes. Voilà que les feuilles se mettent à pousser. Et méditez ne serait-ce que sur un ananas qui pousse comme cela. Et quand on l'ouvre, on voit une perfection. Tous les fruits, toutes les productions, les céréales, les fruits. Nous mangeons parfois sans nous en rendre compte, alors que la gloire de Dieu se trouve dans ces choses. Pensons que tout vient comme ça du ciel. Oui, tout vient du ciel. mais puissions-nous l'entendre et le percevoir en vérité. Ésaïe 45, 12, c'est moi qui ai fait la terre, c'est Dieu qui nous parle et qui veut convaincre nos cœurs qu'il est l'éternel, qu'il n'y en a point d'autre, bien-aimés. Alors nous n'irons ni vers les uns, ni vers les autres, que ce soit des dieux, que ce soit des marabouts, que ce soit n'importe qui. Non, nous aurons l'éternel pour seul maître, pour seul seigneur, pour seul sauveur, pour seul créateur. Et nous saurons qu'il est puissant au-dessus de tout dieu que l'homme peut se créer. Toutes les idoles fondront comme de la cire quand l'Éternel reviendra. Elles tomberont, mais celui qui aura connu l'Éternel pour faire sa volonté subsistera. Puissions-nous l'entendre ce matin nous dire, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Puissions-nous être convaincus de ces choses. Et je vous lirai, pour terminer ce premier point, rapidement, ceux qui veulent prendre avec moi, Romains chapitre 1, et nous lisons le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Cette vérité qu'il est Dieu, cette vérité qu'il est l'Éternel, cette vérité qu'il est le seul qui peut nous secourir, parce qu'il est notre Créateur. Et donc, parce que nous avons péché, nous y viendrons. Et il est notre seul sauveur, notre seule source de salut, le seul qui est le vivant et qui peut nous faire échapper à la mort. Alors, la colère de Dieu, car Dieu est saint, bien-aimé. Dieu est amour, mais Dieu se met en colère aussi. Parfois, dans les églises, nous n'osons pas parler de la colère de Dieu. Pourtant, quel père parmi nous, voyant son fils se perdre, voyant son fils se prostituer, voyant son fils être attaqué par des gens qui lui feraient du mal, qui ne se mettrait pas en colère par amour pour son enfant ? Par amour pour son enfant. La colère de Dieu vient de son amour, vient de son cœur qui saigne de voir ses enfants morts, de voir ses enfants se perdre. Alors, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour nous. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tout devrait se voir comme à l'œil nu, mais nous sommes aveuglés. Le diable sait que ses jours sont comptés. À nous de le savoir mieux que lui, bien-aimé. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Il sait que ses jours sont comptés. Malheur à toi, terre ! Malheur à vous, habitants de la terre ! Car le diable sait que la colère de Dieu va venir, qu'il est déjà dépouillé, qu'il est le vaincu. Mais tant que nous ne laissons pas l'Éternel se révéler à nous, et Jésus, comme nous le verrons, se révéler à nous pour accomplir toutes choses en nous, alors nous le laissons encore faire son œuvre, et il nous voile. Il nous voile sur les choses véritables de Dieu. Ils sont donc inexcusables. Bien-aimés, comme je vous le disais, nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de repentance non pas pour mettre notre tête dans la terre, mais pour revivre, pour être restaurés. Et nous sommes donc inexcusables. Nous qui pouvons encore mettre notre confiance dans d'autres dieux, ou dans des hommes, ou dans des pratiques, quelles qu'elles soient, nous sommes inexcusables parce que Dieu se voit comme à l'œil nu dans ses œuvres. Et nous avons besoin de nous repentir pour entendre sa voix et le connaître et qu'il nous libère et qu'il puisse faire de nous ses témoins, car il nous a dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel ». Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et je lis le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, alors Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toute chose indigne. Je vous laisserai lire vous-même toutes ces choses indignes, toute cette liste que l'apôtre fait, je crois, avec le cœur de Dieu, voyant l'injustice, la méchanceté, la cupidité, la malice, l'envie, le meurtre, les querelles, la ruse, et toutes ces choses semblables. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent de ce qu'ils les font. Je le répète. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Je passe à ce deuxième point. Nous savons. nous avons tous la preuve que Dieu est vivant dans notre conscience. Les lois de Dieu, bien sûr, nous avons la grâce de les voir écrites dans sa parole, mais Dieu les a mises en nous. C'est ce que disait l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 2, verset 14. Quand les païens, qui n'ont point la loi, qui n'ont point la Torah, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. On a tous une conscience naturelle. Vous le savez bien, petits et grands, la première fois qu'on va pour faire le mal, notre cœur se met à battre. Quand nous volons, nous savons que nous faisons le mal. Quand nous sommes méchants avec quelqu'un, nous savons que nous faisons le mal. La première fois, peut-être à l'école ou dans la rue, que nous avons été amenés à nous battre, nous savions que, vous comprenez ce que je veux dire, que nos cœurs battaient. Nous savons que c'est mal. Lorsque nous mentons, nous savons que c'est mal. Alors comment ça se fait ? C'est la preuve qu'il y a des lois en nous. Et s'il y a des lois, bien-aimés, c'est qu'il y a un législateur. S'il y a des lois qui sont claires en tout homme, c'est qu'il y a un Dieu qui soutient tout homme et qui parle déjà à tout homme. Avant même de se révéler pour sauver en Jésus, Dieu soutient ce monde par sa puissance et par sa grâce. Et Dieu soutient notre conscience. Maintenant, si nous fermons les yeux à cela, si nous sommes de ces inexcusables qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu, alors comme nous l'avons lu, Dieu nous laisse à notre sens réprouver. Alors nous commençons à commettre des choses indignes. Le péché, vous voyez, c'est comme quand vous pêchez le poisson. Le diable, la chair, cette nature de péché qui est en nous, les situations qui sont là, jettent l'hameçon. Alors, nous tournons autour. Imaginons-nous cette scène de l'hameçon dans l'eau, avec un bon verre, n'est-ce pas ? Et ces poissons qui commencent à tourner et tourner autour. Et ils sont tentés. Mais Dieu ne tente lui-même personne. C'est nous qui sommes tentés, bien-aimés. Car Dieu nous a dit qu'il nous donnera la force de ne pas succomber à la tentation, mais d'en sortir vainqueur, à condition d'avoir réellement foi en lui. Alors ces poissons tournent. Et voilà que tout à coup un poisson vient, tac, toucher un petit bout, parce qu'il s'approche pour voir ce que c'est. Voilà que le péché rentre en lui, la convoitise rentre en lui. Et la convoitise va finir, comme le dit Jacques, par produire la mort, parce qu'on convoite. Et quelque chose est produit en nous. Et alors, tout à coup, il y a un poisson qui ne va pas résister. Et clac, il va prendre l'hameçon. Et là, au moment où il prend l'hameçon, voilà que la canne à pêche se lève. Et le voilà hors de l'eau. Le voilà dans le péché. Le voilà dans la mort. Le voilà dans un seau en train d'agoniser, comment dire. Le péché, bien-aimé, c'est la même chose. Et nous avons cette loi en nous qui nous dit non, n'y va pas. Et même si nous goûtons un petit peu, nous avons cette conscience, cette loi de Dieu en nous qui nous dit « Ne mange pas !» Et si nous mangeons, alors nous sortons pleinement de... C'est pourquoi Dieu nous avait créés à la base, avant la chute, d'être des adorateurs, d'être comme des poissons dans l'eau, qui peuvent vivre dans l'eau, que Dieu, comme les oiseaux du ciel, saura nourrir, n'est-ce pas ? Nous voulons être autre chose que ce que Dieu a voulu pour nous. Cette conscience, bien-aimée, elle est en chacun de nous. Et c'est la preuve qu'il y a un auteur. Il y a un auteur. Et puissions-nous vrir notre intelligence, dans l'esprit de notre intelligence, être renouvelés pour voir qu'il est Dieu et qu'il a des lois. Et que ces lois, bien-aimées, si nous ne nous les écoutons pas, elles nous condamnent. Elles nous condamnent à la mort. Dieu est vivant dans l'histoire. Dieu est vivant dans l'histoire. Il est le souverain maître. Il est celui qui a agi. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés, nous ne lisons pas des histoires. Nous lisons de l'histoire. En Israël, quand on va à l'école, ici vous apprenez l'histoire du Cameroun. En Suisse, moi j'ai appris l'histoire de la Suisse. En France, d'où je viens là dernièrement, on apprend l'histoire de la France. Quand on est en Israël, on apprend l'histoire d'Israël, n'est-ce pas ? Et on lit la Bible. Il n'est pas question de dire... Est-ce qu'on est laïque ou pas ? L'histoire d'Israël, son histoire, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas des histoires, c'est pas des fables, c'est pas des gens qui ont eu quelque chose dans leur cœur. J'ose le dire parce qu'il faut dire la vérité. C'est pas quelqu'un qui prétend qu'un ange lui a dicté des choses et qu'il est le dernier prophète qui a la vérité tout entière et qui crée une religion islamique qui apporte la mort et un totalitarisme qui laisse les gens sous le joug du diable. Non, c'est un Dieu qui se révèle, qui agit au travers de l'histoire. Ce n'est pas un Dieu, que ce soit du bouddhisme, de l'hindouisme ou des gens, de tout leur cœur. ont cherché Dieu, j'ai passé du temps en Asie. Ô combien je respecte aussi les musulmans, bien évidemment, bien aimé. Ils sont des gens qui cherchent le Seigneur, qui sont parfois des personnes formidables. Mais il faut que la vérité les affranchisse, bien aimé, de ce qui est de la religion, de ce qui vient de l'homme et de ce qui ne vient pas de Dieu, de ce que sont des histoires et non pas le Dieu qui agit au travers de l'histoire. La différence entre notre Dieu et les autres religions, c'est que de tout temps, les hommes ont cherché la divinité. De tout temps, ils ont cherché, parce que nous avons justement quelque chose de Dieu en nous, comme on le dira souvent, un vide en forme de Dieu. Et tant qu'on ne trouve pas quelque chose de spirituel, pourrait-on dire, nous ne sommes pas tranquilles. Alors les hommes cherchent. Des gens dans l'hindouisme sacrifient toute leur vie pour la méditation. Et des sages ont écrit des textes sacrés. Des textes certes pleins de sagesse, mais une sagesse qui est de l'homme qui cherche Dieu. Pareillement pour Bouddha, qui recherchait la vérité. Ce n'était pas encore le temps que Jésus vienne, lui qui est la vérité. Alors ces hommes ont cherché Dieu. Ont cherché Dieu et sont rentrés dans des philosophies qui certes sont pleines de spiritualité, qui certes peuvent même nous toucher par le calme, par la paix qu'ont ces gens-là, par un ego non pas surdimensionné comme dans beaucoup d'endroits, mais dans une humilité. Et pourtant, ce n'est encore que la recherche de l'homme. D'autres adorent des arbres, d'autres adorent des pierres, d'autres adorent des hommes. Tous sont dans des pratiques parce qu'ils cherchent l'éternel. Mais la vérité du Dieu de l'histoire, c'est que Dieu s'est révélé à un idolâtre qui est devenu le père de la foi, Abraham, devenu Abraham, avec qui Dieu a fait alliance. Alors, Dieu a agi dans l'histoire, Dieu a agi avec Adam, Dieu a agi avec Noé. Oh, quand nous lisons, je pourrais vous lire très rapidement, ne serait-ce qu'une parole qui pourrait tant toucher nos cœurs. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel, c'est terrible. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Par la grâce de Dieu, quand nous continuons à lire, nous lisons un mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Dieu aurait très bien pu permettre à ce déluge, et il aurait été parfaitement saint, n'est-ce pas ? Parce que nous avons péché, nous avons désobéi, nous ne le reconnaissons pas dans ses ouvrages comme le Créateur, nous ne le reconnaissons pas dans notre conscience, et aujourd'hui, nous ne le reconnaîtrions pas dans l'histoire. Mais Dieu a fait trouver grâce à Noé. Dieu est le Dieu qui s'est manifesté à Noé et qui lui a demandé de construire cette arche. Alors Dieu est le Dieu qui a frappé Babel, et Dieu est le Dieu qui s'est manifesté à Abraham pour lui donner le don d'Abraham. Dieu est le Dieu qui a parlé au travers de ses patriarches que sont Isaac et Jacob devenu Israël. Dieu est le Dieu qui a conduit les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, Dieu leur a parlé concrètement. Dieu a fait concrètement sortir le peuple d'Égypte, bien-aimé. Comment vous pensez que le peuple d'Israël a pu rester uni pendant 2000 ans d'exil en étant sans cesse persécuté? Vous savez pourquoi? Parce que la révélation du Sinaï a été tellement forte. Quand Dieu s'est manifesté à ce peuple avec une telle puissance, une telle force, quand il l'a fait sortir du pays d'Égypte avec une telle puissance, avec une telle force, que dans tout juif, bien-aimé, il y a encore cette conscience de la puissance de Dieu, d'un Dieu véritable, le vrai maître du monde, pas une inspiration, pas quelque chose que je recevrais de je ne sais quel esprit, de je ne sais quel ange, ou de mon propre esprit. Mais c'est Dieu, dans sa souveraineté parfaite, un Dieu qui est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Dieu qui est séparé, qui est tout autre que sa création. Nous sommes créés à son image, oui, et ce n'est pas notre sujet maintenant, mais Dieu est saint. Ça veut dire coupé en hébreu. Kadosh, il est tout autre. Alors oui, nous devons craindre devant ce Dieu. Nous ne pouvons le représenter par rien, parce que personne, si ce n'est Yeshua, Jésus, qui est venu, n'a vu le Père. Par sa grâce, et on va y venir, il nous invite à voir Jésus, qui alors nous permettra de voir le Père. Mais il est saint, il est tout autre. Et donc de sa sainteté, du fait qu'il est tout autre, dans l'histoire, il est venu agir au travers des hommes. Et la Bible, ce ne sont pas des histoires, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Dieu, au travers de ses prophètes, je vais vous prendre quelques très brefs exemples. Par exemple, nous lisons dans Ésaïe, chapitre 45, verset 13, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Vous voyez bien, Ésaïe a prophétisé 200 ans avant la naissance de Cyrus. Daniel, bien aimé, il a prophétisé toute l'histoire, au point que des critiques, comme on les appelle, ils n'arrivent pas à croire, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont sûrs que les prophéties de Daniel, c'est un livre qui a été écrit beaucoup plus tard, vous voyez. Parce que de la manière dont Daniel a pu voir tous ces royaumes babyloniens, médo-perses, grecs et romains, plus ce règne antichristique, cette fameuse statue de Daniel, toute la trame de l'histoire, Daniel l'a vue. Dieu sait toutes choses. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est l'omniprésent, l'omniscient et l'omnipotent. Il est le tout-puissant, bien-aimé, qui connaît toutes choses. Et il a parlé par ses prophètes. Et ses prophètes, leur parole s'est accomplie dans l'histoire. 700 ans avant la naissance de Jésus. Je répète, 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a pu donner tant de détails des souffrances de Jésus. Vous connaissez tous Ésaïe 53, du moins ceux qui ont la grâce de pouvoir aimer et lire la parole de Dieu. Dans Ésaïe 53, il décrit avec différents détails Ésaïe 50 aussi. Peut-être nous lirons certains versets plus tard, qu'on lui a arraché la barbe, qu'on lui a craché dessus 700 ans avant. Et tout ça, c'est parfaitement accompli. Et mon dernier exemple, c'est le peuple d'Israël. Vous avez nombre de prophéties dans les Écritures que personne n'aurait pu croire s'accomplir. Pourquoi ? Parce que, comme Jésus l'a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et les Israélites seront dispersés jusqu'aux confins de la terre. C'est ce qui s'est passé. Les Juifs ont été partout dans le monde. Vous avez des Juifs aux États-Unis, vous en avez au Japon, vous en avez en Russie, vous en avez en Afrique aussi. De par le monde entier, les Juifs se sont répandus. Et 2000 ans après, et là, bien-aimés, nous avons une preuve des preuves que l'Éternel est vivant, qu'il est le Dieu de l'histoire, qu'il conduit toutes choses. Je lis Jérémie 23, verset 7. Une prophétie parmi tant d'autres. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion. Ça c'est le nord, notamment la Russie, où il y avait beaucoup de juifs qui sont venus en masse en Israël et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Je vous pose la question, qui a reconnu le bras de l'Éternel ? En Ézéchiel 36, nous lisons qu'il sanctifiera son nom au travers de ce retour d'Israël. Son nom a été mis à part, lui qui est saint, pour que nous puissions le voir. Oh bien-aimé, puissions-nous le reconnaître. Il est le Dieu de l'histoire. Et bien-aimé, s'il a agi de la sorte, comme j'ai pu très rapidement vous le dire, au travers de l'histoire d'Israël, au travers de Jésus, au travers de ce retour d'Israël sur sa terre, qui est le signe que le temps des nations est accompli. Le signe que nous arrivons à la fin, parce que Israël était dispersé pour que cet évangile soit prêché jusqu'aux confins de la terre. Israël qui revient sur sa terre veut dire que la porte de la grâce des nations se ferme et que l'apostasie, l'abandon de la foi grandit. Le règne de Dieu arrive et le règne de l'Antichrist se déploie puissamment jour après jour. Les choses dernières sont là. N'attendons pas X temps. Je vous invite à vivre comme si Jésus revenait maintenant, comme si Jésus revenait ce soir. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés ? Avons-nous reconnu que l'Éternel est Dieu dans sa création, dans notre conscience et dans l'histoire ? S'il a agi de la sorte dans l'histoire, c'est qu'il va tout accomplir. Amen. Il va tout accomplir. Que cela nous donne une foi, une certitude par le Saint-Esprit qu'il revient bientôt dans sa gloire. Alors il nous tend sa main et il nous pose la question, et c'est ce deuxième point. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Parce que Dieu qui a tant aimé le monde a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parfois, ce verset il est écrit à beaucoup d'endroits. Parfois, ce verset, on peut même le dire à la légère. Et pourtant, il y a tout la gloire de Dieu dans ce verset. Un Dieu qui est venu jusqu'à nous pécheurs. Il aurait pu nous laisser comme ça et il nous a sauvés. Si Dieu a fait toutes ces choses, soyez sûrs qu'il reviendra. S'il est venu comme un agneau, il reviendra comme un lion. S'il est venu comme le fils de Joseph, Joseph qui a été humilié avant d'être élevé, il reviendra comme le fils de David, le conquérant qui fera régner la vérité, la droiture et la paix sur ce monde et qui jugera tous les hommes pécheurs qui ne se seront pas tournés vers lui. Car, Lévitique 11, 44, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Bien-aimé, Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est séparé. Et si Dieu est séparé de nous, c'est que nous sommes séparés de lui. Nous sommes séparés de Dieu. ce grand Dieu dont on a pu parler en quelques points pour montrer au combien il a pu nous dire « Je suis vivant ». Oh, j'espère que dans chacun de nos cœurs, une conviction de l'Esprit peut être donnée. Cet éternel est vivant. Mais cet éternel qui est vivant, bien-aimé, il est saint. Et donc, il est séparé de nous, nous sommes séparés de lui. Et la preuve de cela, bien-aimé, c'est la mort. Qui d'entre nous peut prétendre échapper à la mort? La mort a pouvoir sur chacun de nous. Qui pourrait se sauver par lui-même? La preuve aussi que nous sommes séparés de lui, qui est un Dieu bon, un Dieu d'amour, c'est que si nous sommes honnêtes, nous avons tous en nous, pour ceux qui n'ont pas pu connaître le véritable salut, cette vieille nature, cette nature de péché, qui nous porte tout le temps vers le mal, comme nous venons de le lire dans Genèse 6. Et nous, qui avons pu recevoir la grâce de voir tous nos péchés pardonnés, mais de voir cette nature, vieille nature, clouée à la croix pour naître de nouveau, pour recevoir une autre nature, celle de Dieu, de ne plus vivre de nos propres vies, mais de la vie de Jésus. Nous sentons tous cette chair, n'est-ce pas? Cette chair qui, à des moments, peut encore lutter en nous. Et bien évidemment, nous sommes appelés en tant que croyants à laisser Christ triompher, car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui, comme le dira Pierre. Et nous sommes appelés, si nous portons le nom de chrétien, nous sommes appelés à être triomphants. Sans quoi nous ne sommes pas chrétiens, car nous sommes encore dans nos péchés, nous sommes dans notre nature de péché, mais Dieu nous en libère. Certes, la chair va essayer de jouer son rôle, mais par l'Esprit, nous ferons mourir les œuvres de la chair, et nous vivrons pour l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, cette mort, Dieu veut nous faire y échapper. Parce que la mort, tout comme la vie, est éternelle. La mort, tout comme la vie, est éternelle. Comme je vous le disais en introduction, ce règne de Dieu, ce royaume de Dieu, durera toujours. La mort est éternelle et la vie est éternelle. Mais la mort consciente, pas la mort, un trou noir jusqu'au bout, non. Ça, c'est pas vivant. La mort consciente est éternelle. Je parlais de Lazare tout à l'heure dans les pleurs, n'est-ce pas? Et ce mauvais riche. Et bien, ce mauvais riche, il n'était pas dans un trou noir où il était dans la paix parce qu'il ne voyait plus rien. Parfois, on souffre tellement, on a envie de se donner la mort en pensant que nous allons être soulagés. Oh non, nous ne serons soulagés de rien, bien-aimés. Parce que la mort restera consciente et elle sera éternelle. Les tourments du jugement de Dieu seront éternels. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous avons tous péché. Les lois de Dieu nous condamnent. Qui peut se lever ce matin et dire « Je n'ai pas péché ». Le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort. Donc nous allons tous mourir et mourir éternellement. Est-ce que Dieu peut venir dans sa grâce ce matin pour nous parler du Fils, et même si nous sommes déjà de ses sauvés, pour nous édifier, pour nous réveiller encore, que nous sommes tous appelés des témoins que l'Éternel est vivant, qu'il n'y a que lui qui est Dieu, mais il y a aussi que lui qui sauve, et qu'il veut sauver. Et Dieu, bien-aimé, il n'a pas donné son Fils, comme j'ai pu vous le dire, qui a été jusqu'au bout de son amour, pour qu'il ne puisse pas nous sauver jusqu'au bout, et il le fera. Alors, bien-aimé, le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, c'est par Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés de Dieu. Et Jésus est venu de Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre et qui s'est fait homme. Il s'est fait homme et il a marché parfaitement, sans aucun péché. Et parce qu'il est Dieu et qu'il a marché parfaitement, après avoir agonisé sous la tentation du diable, il a bu cette coupe de la colère que l'on voit dans l'Apocalypse. La coupe de la colère de Dieu va se déverser sur les habitants de la terre. Mais cette coupe, bien-aimé, de notre péché, cette coupe de la colère, Jésus l'a bu. Vrai Dieu et vrai homme, en tant qu'homme, il a été tenté comme nous, en toute chose, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et il disait à son Père, que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas ma volonté d'homme, mais la tienne puisse se faire, et elle s'est faite. Quand bien même ses apôtres dormaient dans le moment le plus cher de l'histoire, certainement, Jésus s'est levé et a dit « Allons-y ». Et il est allé. Et il est allé, il s'est fait frapper, refrapper, flageller, reflageller, couronner d'épines, moquer Dieu qu'il était, bien-aimé. Il a porté sa croix et il a été crucifié. Et voyez même la tentation qu'il pouvait avoir quand il était sur la croix et qu'on lui disait « Si tu es bien le Fils de Dieu, descends de ta croix ». En un instant, bien-aimé, il pouvait faire que le monde entier tombe et meure parce qu'il est Dieu, il est l'auteur de la vie. Et on lui crachait dessus, on se moquait de lui. Le prophète Esaïe nous parle clairement de cela. Esaïe 50, verset 5. « Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Voyez, 700 ans avant ce qu'il prophétise. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Esaïe 53. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Esaïe 53, 5 et maintenant Esaïe 53, 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Jésus a été frappé pour nos péchés. Lui qui était le juste, lui qui était l'innocent. Vous savez, dans la parole de Dieu, vous pouvez lire ça dans le livre des Proverbes, il nous est dit que c'est une abomination d'absoudre le coupable et de condamner le juste. Et pourtant, par amour, c'est ce que Dieu a fait. Jésus a été parfait. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Sans péché, dans une innocence pure. Et il a bu cette coupe. Il s'est chargé de toute notre iniquité. C'est pas juste ce qui s'est passé, on pourrait le dire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas juste. C'est pas normal. C'est pas normal. On a tous aussi, par cette loi de Dieu, comme nous en parlions tout à l'heure, ce sentiment de la justice, n'est-ce pas, en nous? Quand quelqu'un fait le mal, il doit être puni. C'est facile de dire oui, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne. Mais si quelqu'un, pardon, je vais prendre exprès un exemple fort. Si quelqu'un violait ton enfant, mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'exigerais pas de la justice de le punir? Si le juge te dirait, ah non, je le laisse partir gratuitement. Qu'est-ce que tu ressentirais dans ton cœur? Quel sentiment d'injustice? Et Dieu est parfaitement juste, mais Dieu est aussi parfaitement amour. Et il a voulu tant nous aimer pour nous faire vivre éternellement et nous sauver, alors de grâce ne passons pas à côté de cela. Qu'il est venu lui-même, Dieu qu'il était, il s'est fait homme, vrai Dieu, vrai homme, marchant parmi nous parfaitement, selon toute la Torah de Dieu, selon toute la perfection. Il s'est chargé de nos péchés et il a été frappé par Dieu. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Vous savez, un jour, j'étais dans une église et une dame avait comme un chant prophétique, comme on dit, dans certaines églises charismatiques. Mais en chantant, souvent, on peut un peu s'emballer dans nos émotions, elle disait « Le Père a lavé les pieds de Jésus à la croix. » J'étais voir le pasteur et voir cette dame à la fin du culte. Aujourd'hui, elle a compris. Et je lui ai dit « Ce que tu as dit est une véritable hérésie, parce que le Père n'a pas lavé les pieds du Fils sur la croix. Le Père a frappé le Fils. Le Père a jugé le monde et chacun de nous en Christ, sur la croix. Le jugement qui doit tomber sur nous est tombé sur Jésus. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. Et librement, Jésus a donné sa vie. Personne ne l'a tué. Non, il a donné sa vie. Personne n'a pouvoir de tuer le Fils de Dieu, Dieu lui-même. C'est lui qui a donné librement sa vie. Lui, le parfait juste, mort pour des injustes. Et ainsi, si nous croyons dans cette justice de Christ, qui a marché parfaitement et qui a pris nos péchés et qui a été crucifié à la croix, par notre foi dans ce sacrifice, nous pouvons recevoir la justice de Dieu par la foi, par sa pure grâce, par son pur amour. Romains 5, verset 8 nous dit ceci: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 2 Corinthiens 5, 19: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même, vous voyez quoi? La victime expiatoire. Notre péché devait être expié. La colère juste et véritable et amoureuse de Dieu devait pouvoir être assouvie. Ce qu'on appelle la propitiation, n'est-ce pas? Quand il y avait ce propitiatoire dans la première alliance, qui devait être couvert par le sang des boucs sur lesquels le grand prêtre mettait le péché de tout le peuple. Alors, un des boucs était tué, l'autre était jeté dans le désert. Et le grand prêtre arrivait le jour le plus saint de l'année. On lui mettait des clochettes sur son habit, de peur qu'il meure devant l'Éternel. C'était le seul jour de l'année où il allait au-delà du voile, dans le Saint-Temple de Dieu, là où il y avait l'Arche de l'Alliance, là où se trouvait la présence de Dieu. Il devait mettre du parfum pour ne pas voir Dieu et mettre le sang des boucs sur le propitiatoire pour assouvir la colère de Dieu. Alors s'il revenait sain et sauf, c'est là qu'il disait « Shalom Alechem, la paix soit avec vous. Et tout le peuple était soulagé. La miséricorde, le pardon de Dieu est sur nous. C'est ce qu'a fait Jésus. Après être mort et ressuscité, comme il a dit à Marie Magdala, ne me touche pas car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Pour faire cette purification dans le temple saint, dont le temple terrestre était l'image. Et alors ressuscité, elle est arrivée vers ses disciples. La paix soit avec vous. Et elle a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous, nous rendre conscients du plus profond de nos cœurs et par son esprit, qu'il est mort à notre place, il est mort pour nos péchés, il a tout donné pour nous. Alors de grâce, comme le disait l'apôtre Paul, laissons-nous réconcilier avec Dieu, lâchons toutes nos résistances et laissons notre vie à la croix et recevons sa vie. Amen. Nous allons à lui et nous avons besoin de repentance parce que nous avons tous péché. Si Dieu est saint, et que nous sommes séparés de lui. Je n'ai pas envie de crier pour crier, n'est-ce pas? Mais que dans sa beauté, que dans son amour, Dieu vous montre ce matin, et nous montre à tous encore, si nous avons besoin encore d'être purifiés, quel est notre péché. Car ce rideau du temple, où le grand prêtre osait rentrer une fois après s'être préparé, a été déchiré. Lorsque Jésus est mort à la croix, le temple a tremblé, et Jésus avait dit que ce temple serait détruit, et qu'il le rebâtirait en 3 jours. Le temple de son corps, n'est-ce pas? Ce rideau a été déchiré. Le centurion a dit, assurément, il était le Fils de Dieu. Allons-nous voir le Fils ce matin? Allons-nous voir le Fils sur la croix? Vous voyez, Jean chapitre 6, verset 40 nous dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. » La volonté de Dieu pour nous ce matin, c'est de voir le Fils et de croire en lui et d'avoir la vie éternelle. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tes péchés, Dieu sauve. Aujourd'hui, si tu entends sa voix et que tu mets ta foi en lui, si tu entends la parole de Dieu et tu sais ta nature de péché, tu connais tous tes péchés, dis-lui pardon. Renonce et vois le Fils sur la croix. Et c'est ton péché qu'il a porté sur la croix. Il a été fait péché pour toi. Et c'est ton péché, comme le disait Pierre à la Pentecôte. Vous avez crucifié le Seigneur de gloire. Nous avons tous crucifié Jésus. C'est notre iniquité, bien-aimé. C'est nos péchés qu'il portait à la croix. Alors nous continuerions à vivre sans voir ces choses. Nous continuerions à être des enfants de la colère, comme dit l'Épître aux Éphésiens, ou des brebis errantes. Que Dieu ce matin, et cette nuit quand on priait, moi-même qui j'étais ici, j'entendais les bien-aimés, et maman Isabelle qui disait, « Ramène les brebis perdues. Ramène ces brebis à ta bergerie. » Que Dieu lève des prédicateurs ici, bien-aimés, qui prêcheront avec leurs entrailles, avec des larmes comme elles étaient tout à l'heure, pour que de grâce toutes ces brebis perdues, parce que Jésus a été fait péché pour eux, parce que Dieu lui-même, le grand éternel, est mort nu sur la croix. On ne peut pas, bien-aimés, quand on voit ces choses, rester tranquille. C'est pourquoi moi je ne peux pas laisser ma femme et mes enfants. On va venir servir Dieu et tout donner ici. Pour aider, on ne peut rien faire nous-mêmes, mais pour aider à ce que tous puissent voir le Fils avant qu'il ne soit trop tard. Et que celui qui voit le Fils alors, et ce sera mon dernier point, j'y viens dans un instant, puisse rentrer dans sa vocation, vocation des choses dernières. Que Dieu trouve ce reste avec qui il va faire, bien-aimé. Oh, puissiez-vous voir Jésus. Et si vous voyez Jésus sur la croix, vous verrez votre péché. Vous avez pu commettre des meurtres. Vous avez pu commettre les pires atrocités, votre péché a été pris par Jésus. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de celui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bien-aimés, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 9, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Bien-aimés, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père sinon par lui. Amen. Allons au Père, revenons à la bergerie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Ici, alors que nous venons là. pris pour servir l'Éternel. Et nous ne voulons pas servir une association ou une mission ou quoi que ce soit. Nous voulons servir l'Éternel pour bâtir son corps et rien d'autre. L'Église du Dieu vivant qui n'a aucun nom sinon le nom de l'agneau de Dieu, le nom du lion de Juda, celui qui est venu comme un ver, comme le dit le prophète, et celui qui viendra comme le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Nous ne pouvons faire rien d'autre parce que l'amour du Christ nous presse. Parce que si un seul est mort pour tous, alors donc tous donc sont morts. Alors nous ne vivrons que pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous ne connaissons plus Christ selon la chair, on veut le connaître par l'Esprit. Et si nous le connaissons par l'Esprit, nous vivrons par l'Esprit, nous le servirons par l'Esprit. Et nous crions jusqu'à ce qu'il revienne. Regardez Jésus, voyez Jésus, reconnaissez Jésus, voyez votre péché sur lui et laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie, il n'y en a point d'autre. Et il veut vous sauver, mais il veut aussi délivrer, il veut aussi guérir. Repentez-vous, bien-aimés, car le royaume des cieux est proche. Et puisse, après cette prédication, Dieu montrer que cette parole est la vérité. Et je vous assure que si vous vous repentez, et vous le savez, moi j'ai pas envie de savoir, Dieu seul sait. Mais si vous avez l'humilité de vraiment reconnaître le mal que vous avez pu faire, ou comme vous avez pu être tombé dans le péché, ou les pratiques de vos pères, n'est-ce pas, qui viennent alors vous détruire pour vous repentir. Jésus a dit, si tu me préfères à ton père, à ta mère, ou même à tes enfants, tu ne peux pas être mon disciple. Repentons-nous pour toutes choses et faisons de Jésus le véritable Seigneur de notre vie. Et s'il y a repentance, il y a délivrance. Il y a délivrance. S'il y a conviction de péché, il y a salut. Alors je peux vous parler de tout mon cœur par le Saint-Esprit. Mais dans quelques instants, nous nous mettrons devant Dieu. Que tous ceux qui voudront laisser ce salut rentrer en eux, déposer tous leurs péchés et leur nature de péché. Car comprenez, il n'y a pas seulement nos péchés. Nos péchés pourraient être comme les branches d'un arbre. Mais si nous coupons toutes les branches d'un arbre et que nous sommes heureux que toutes ces branches pécheresses soient pardonnées, ces branches vont repousser de plus belles. Même si nous coupons le tronc, les repousses viendront de plus belles. Dieu veut nous déraciner. Jésus a dit, celui qui ne perd pas sa vie ne peut pas la trouver. Alors, donnons toute notre vie, tout ce vieil homme, toute notre nature de péché, l'incirconcision de notre chair, donnons-la à Dieu. Donnons-la à Dieu. Et alors, si vraiment il y a repentance, alors il y aura ce souffle de l'Esprit. Il y aura ce Jésus qui dit, Shalom Alechem, la paix soit avec vous. Ce rideau va se déchirer. Tu n'auras plus peur de Dieu comme Adam et Ève qui se cachaient, n'est-ce pas? Parce que tu auras pu te repentir et tu auras pu croire. Crois, crois, believe en anglais. On pourrait dire tous les noms. Il nous suffit, crois et tu seras sauvé. Crois qu'il y a une puissance dans la foi, par la prédication. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est la pure grâce de Dieu. Puisses-tu voir le Fils de Dieu ce matin et croire qu'il est mort pour ton péché. Alors la puissance de Dieu va venir sur toi. Son esprit va être répandu. Et tu seras réconcilié avec lui. Et alors si tu es malade, eh bien, laisse l'Esprit te montrer là où tu dois demander pardon pour le péché de tes pères, pour ce que tu as pu faire toi et les attaques que tu as donc pu subir, ou même pour la maladie qui a pu venir. Dieu ne nous a pas créés pour être malades, vous le savez bien. La maladie vient de cette brisure du monde. Eh bien, repentons-nous et laissons Dieu nous guérir. Laissons Dieu nous délivrer et il le fera parce qu'il est l'Éternel. Nous avons besoin de cette révélation du Fils de Dieu. Alors, je vais passer rapidement au dernier point. Et pour cela, j'aimerais vous lire un texte dans Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?»« Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Verset 15, Jésus nous regarde dans les yeux nous-mêmes ce matin, n'est-ce pas, et nous dit, « et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, ça veut dire le Oint, le Messie, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Qui va dire cela ce matin? Jésus lui-même vous pose la question. Vous avez entendu parler, voilà. Un jour, on était à Yaoundé, on a pris le taxi, j'ai témoigné de Jésus dans le taxi. Et un des taximans me disait, « Oui, je sais que Jésus est mort. » C'est ce que les hommes disent aujourd'hui. Oui, Jésus est mort pour nous. Mais est-ce que tu le sais par son esprit? Est-ce que Dieu te l'a dit? Est-ce que tu l'as vu réellement, que Jésus est mort pour toi? Parce que si Jésus est mort pour toi, alors Jésus va transformer ta vie.
Amen.
Alors Jésus va libérer sa puissance dans ta vie. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tant que nous n'avons pas cette révélation, vous voulez savoir, le diable, il continuera, je vous l'avais dit. Il continuera à nous faire du mal. Tant qu'on ne sort pas de cette nature qu'il peut attaquer, hein, par la maladie, par toutes sortes de choses, et même, sans parler de maladie, n'est-ce pas, vous qui souffrez tant, pour la plupart, en tout cas, il y a une grande partie de malades, encore je vous dis tout mon cœur, d'avoir pu venir au travers de vos souffrances, de cet ulcère de Burulie en particulier. Mais même ceux qui ne sont pas malades, nous sommes tous en train de souffrir. Et Dieu veut nous libérer. Tant que nous n'aurons pas vécu cette libération, le diable qui ne désire qu'une seule chose, nous faire rentrer dans la mort éternelle. Parce qu'il sait qu'il est déjà jugé. Il sait qu'il a été vaincu à la croix. Et tout son but, il est un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Ça, cette parole, on peut la dire comme ça, on dit oui, amen. Mais si vous étiez dans la jungle et qu'il y avait un lion qui rôdait, rugissant autour de vous, vous diriez au secours. Vous seriez dans l'obligation de réagir. Alors réagissez, bien-aimés. Que tous ceux qui ne peuvent pas se lever en disant « Je suis sauvé, je marche dans la sanctification, mort du corps de Christ », se réveillent avant qu'il soit trop tard. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'illuminera. Si le lion rugissant rôdait, nous réagirions tout de suite, bien-aimés. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Car il rôde, et tout son désir, c'est de nous prendre avec lui pour une éternité de mort consciente, n'est-ce pas, dans un étang de feu qui est bien une réalité. Et tout ce que Dieu veut, c'est nous prendre avec lui pour son royaume. L'évangile n'est pas l'évangile de cette terre. L'évangile n'est pas l'évangile de la bénédiction. L'évangile n'est pas l'évangile de la richesse, n'est-ce pas? L'évangile n'est même pas l'évangile des miracles et des guérisons. L'évangile est l'évangile du royaume. Alors oui, Dieu manifeste par des signes la véracité de son royaume, mais c'est pour notre salut et le royaume de Dieu que Jésus est venu. Pour qu'on puisse rentrer dans son règne, qu'il restaure la royauté en Israël, et que de Jérusalem il règne sur la terre entière, et que tout le monde vienne l'adorer, et que nous soyons dans la paix véritable. Alors, ces deux forces, c'est tout l'objet du livre des psaumes, entre le juste et l'injuste. Il y a ces deux chemins, ces deux voies, la bénédiction ou la malédiction, la mort ou la vie, le chemin des justes ou le chemin des pécheurs. Est-ce que tu veux rester assis avec les pécheurs et les moqueurs? Ou est-ce que tu vas dire, non, je vais me lever, je vais rentrer dans la maison de mon Père. Comme nous disons dans Luc 15, cet enfant prodigue, il nous est dit qu'il est descendu en nous-mêmes. Puissions-nous descendre en nous-mêmes, voir Jésus sur la croix, lui donner toute notre vie, alors la vie de Dieu va venir. Et on va prier, et ceux qui sont prêts, Dieu va agir ce matin. Dieu va agir ce matin. On ne veut pas se contenter seulement de parler, on veut laisser le Christ de Dieu être manifesté au milieu de nous, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades et surtout, surtout, pour sauver. Alors, je termine le dernier point maintenant, bien-aimés. Si nous pouvons laisser Jésus nous sauver, alors nous allons rentrer dans notre véritable destinée. Et qu'est-ce que cette destinée véritable? Je continue Matthieu 16 et je prends à partir du verset 18. Après que Jésus ait dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a que Dieu le Père qui peut vous révéler ce que je suis en train de dire. Mais s'il vous révèle, vous allez être bien heureux, les plus heureux même de la terre. La joie de Dieu, puisse cette joie nous être donnée à tous, et que personne puisse nous la voler. Amen. Alors, nous lisons ceci. Et moi je te dis, que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Si non pas de la chair et du sang, mais que tu reçois, comme dit Jean chapitre 1, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alors, sur la pierre de ton salut, sur la pierre de cette révélation qu'il est le Fils de Dieu, Dieu va bâtir son Église. Avec toi, Dieu va bâtir son Église. Tu vas devenir une pierre vivante de l'Église de Jésus-Christ. Et nous serons tous des pierres et nous formerons le temple de Dieu qui sera saint dans le Seigneur et que tous verront comme Dieu est présent, Dieu est vivant, où Dieu sauve, où Dieu restaure, où Dieu donne un avenir et où Dieu donne de l'espérance. Si tu vois le Fils sur la croix, si ces choses te sont révélées par le Père, alors tout de suite, tu es sauvé pour un but. Et ta destinée se trouve dans ce but. Dieu veut bâtir avec toi son Église. Et qui que tu sois, quel qu'ait été ton cheminement, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et Dieu peut le faire. Christ en toi, tu deviens un membre du corps de Christ. Christ en toi, tu deviens un membre du corps de Christ. Et Dieu va bâtir son Église. Et vous savez ce qu'il continue par dire ? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts. Alors je peux parler de maraboutage et autres ici parce que vous êtes complètement dans ces choses que des personnes dans nos pays, en Occident, ils rigolent presque là-dessus en croyant que ce n'est pas la vérité. Mais si des Européens un jour entendront cette prédication, les portes de la mort sont bien parfois plus subtiles. Comme je le prêchais même dernièrement à des bien-aimés missionnaires pour les aider à être réveillés en Christ. Je leur parlais de cette maladie terrible de l'ulcère de Bruelli. Je disais, mais l'ulcère de Bruelli sévit encore plus chez nous. Le problème, c'est qu'il ne se voit pas. Il est subtil, il est intérieur. Les puissances antichristiques, l'orgueil de l'homme, foisonnent les tentations, la séduction. L'homme-Dieu est plus que jamais en place dans nos pays d'Europe. Et tout cela vient que les portes de la mort prévalent sur les hommes, qui, croyant être sages, sont pourtant devenus fous, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ils croient être sages, ils croient avoir réussi, ils croient avoir la vie. Non, ils sont devenus fous et ils sont sur un chemin de perdition. Et ce chemin est très large et tous le prennent. Et tous le prennent. Mais si nous nous laissons sauver par Christ, Christ avec nous va bâtir son Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, dites-vous bien une chose, et je vais conclure maintenant par quelques paroles, et nous allons prier. Dieu est saint, et il est le vivant. Nous sommes pécheurs, et si nous voyons Jésus, nous sommes sauvés. Mais alors nous sommes sauvés pour un but, et nous sommes sauvés pour le servir. Et nous sommes sauvés pour le servir ici-bas sur la terre, et nous sommes sauvés pour le servir éternellement. Parce qu'à la base, nous avions été créés pour adorer Dieu. Nous avions été créés pour lui donner gloire. Nous avions été créés pour l'aimer. Nous sommes faits pour le servir. Le seul sens de notre vie, c'est de servir Dieu. Parce que lorsque nous avons compris que nous étions errants, des brebis perdues, pécheurs dans ce monde, et que Dieu nous libère, la seule chose que nous pouvons avoir par l'Esprit dans notre cœur, c'est de libérer les autres. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, n'est-ce pas ? Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce que vous comprenez ça ? S'il fait briller quelque chose dans nos cœurs, c'est pour que ça brille à nouveau. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est ce qu'a dit Jésus. Et chacun a donc un rôle. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, bien-aimés, et que nous laissons l'Esprit conduire notre vie, alors nous rentrons dans le projet de Dieu. Nous rentrons dans le projet de Dieu. Et j'aimerais vous dire à tous, si vous pouvez encore être attentifs quelques minutes, et nous allons prier, j'aimerais vous dire à tous, si vous laissez Jésus être vraiment votre Seigneur, parfois on dit Seigneur, Seigneur, un Seigneur c'est quelqu'un qui règne. Si vous laissez Jésus régner en vous, vous allez rentrer dans le projet de Dieu. Et Dieu vous dit, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Entends-tu ça ? Malgré tout ce que tu peux souffrir, il est un avenir. Il est un avenir, bien-aimé, pour chacun de nous, et ton espérance ne sera pas anéantie. Il y a, Jérémie 31:17, de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Allons-nous nous laisser sauver par Dieu et allons-nous rentrer dans les projets de Dieu ? Mais vous savez, il n'y a pas plus heureux, même si ce n'est pas facile de servir Dieu, que de le servir, que d'être enrôlé dans son armée. Parce qu'on sait qu'on est dans sa main, on sait qu'on est dans sa volonté. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Alors Dieu dit ce matin, qui se lèvera et marchera pour moi ? Qui se lèvera et marchera pour moi ? Si Jésus vit en vous, vous êtes membre du corps du Christ. Donc vous avez, mais que vous soyez un doigt, un pied, un cœur, un œil, une oreille, Dieu fera tout avec tous C'est tout ce qu'il veut faire. Et chacun de vous a sa place dans ce corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Maintenant, Dieu a placé chacun de ses membres dans le corps comme il l'a voulu. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. 1 Corinthiens 6 et 12, vous lirez vous-même. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes des réconciliateurs. Nous sommes des messagers de bonnes nouvelles. Nous sommes des messagers de paix et Dieu, avec nous, veut bâtir son Église. Nous sommes faits pour le servir. Parce que vous savez, même si vous pouvez dire « Ah non, moi je ne veux pas servir Dieu », sachez que si vous voulez être sauvé, vous le servirez éternellement. Parce que vous êtes sauvé, comme dit l'Épître aux Éphésiens, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes sauvés pour servir à célébrer sa gloire une fois que Jésus sera venu pour réparer cette brisure du monde et pour amener son règne de paix. Nous régnerons et le servirons. Nous sommes faits pour le servir pendant son règne terrestre et pendant son règne éternel. Comme vous voyez dans l'Apocalypse, ces vieillards qui jettent leur couronne et qui adorent l'Éternel. Saint, saint, saint. Nous dirons saint pour l'éternité et nous donnerons toute la gloire à Dieu. Parce que quand il reviendra, nos yeux seront ouverts et nous connaîtrons comme nous sommes connus. Nous connaîtrons comme nous sommes connus. Éternel notre Dieu, que ton règne vienne maintenant en ces instants. Qu'il vienne sur cette terre comme il est au ciel. Car tu es un Dieu puissant et tu es Seigneur. Oui, ô notre Dieu, tu es l'Éternel, tu es Seigneur. Et maintenant je te demande de manifester, Père, ton esprit au milieu de nous, ta vie, la vie de Jésus au milieu de nous. Et que celui qui a soif vienne boire de l'eau de la vie. Gratuitement, que celui qui peut se repentir soit délivré de son péché, de sa maladie, de toute puissance occulte qui a pu être pratiquée sur lui, et que l'Éternel soit glorifié au milieu de nous, maintenant par la prière éternelle de gloire. Viens au milieu de nous, commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon. Laisse l'Esprit de Dieu venir te montrer ton péché. Nature de péché. Jésus à la croix. Cet avenir et cette espérance qu'il a pour toi. Et si tu le veux, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, maintenant, toutes ces choses que mon Dieu te dit, on va voir ensemble la gloire de Dieu.